De l'autre côté de la musique, une émission proposée, présentée par Michel Giardella, une autre approche de la musique classique. Bonjour Michel.
Bonjour.
Une émission qui se thématise au fil des mois. Il suffit de se rendre compte sur notre site internet, oui, dans la rubrique de l'autre côté de la musique, beaucoup de thèmes déjà ont été envisagés. Et là, effectivement, un nouveau thème qui émerge. Et parfois, quand on commence à creuser, faire des petites recherches sur une idée autour d'une chose de la vie, on s'aperçoit finalement que c'est transversal à beaucoup de compositeurs. Et ça se vérifie encore aujourd'hui. Je vous laisse prononcer l'intitulé de ce qui va occuper tous les compositeurs et nos auditeurs durant cette émission.
Eh bien, c'est un moment privilégié dans la journée, c'est de l'aube à l'aurore, c'est le titre de notre mission. Un moment que les compositeurs ont dû apprécier dans leur vie, ce moment où la nuit disparaît, où le jour arrive, où le soleil émerge. Alors on va commencer peut-être par un musicien auquel on ne s'attendrait peut-être pas, c'est Haydn. Haydn, en 1799, écrivit Cicatior, un que tout le monde connaît. Dans le numéro 2, il y a dans l'andante un mouvement lent. Et ce mouvement lent, on y mit des paroles dessus et il devient l'hymne allemand, d'abord l'hymne autrichien et ensuite l'hymne allemand, puisque l'Allemagne et l'Autriche ont le même hymne. Ça s'est tiré de ce Cicatior de Haydn. Voilà, donc il écrivit ses Cicatior qui ont tous été remarquables. Beethoven s'en inspirera énormément. Et je vous propose d'entendre le Cicatior numéro 4 qui doit son nom au début de son allegro parce qu'il y a un thème qui s'élève doucement au premier violon sur un accord de dominante évoquant l'apparition du soleil. Tous les historiens de l'histoire de la musique ont appelé ce Cicatior le lever du soleil.
Écoutons. Doucement chanter ce quatuor de Haydn pour déjà une première expression du lever, coucher de soleil, ces instants privilégiés pour les compositeurs qui en ont inspiré plus d'un.
Plus d'un, oui.
Et on peut même monter dans le Grand Nord pour trouver aussi d'autres exemples.
Alors c'est amusant parce que quand on parle du lever de soleil, pour tous les mélomanes, c'est Grieg, c'est Peer Gynt, c'est le lever du soleil. Nous pensons tous dans les fjords. Un fjord avec un lever de soleil, c'est magnifique, hein, les fjords. Et le lever de soleil qui arrive sur le fjord, qui inonde le fjord. Or, en réalité, la composition, c'est pas du tout ça. L'histoire de Peer Gynt, il est parti en Afrique. Et l'histoire raconte, c'est une pièce d'Isben, et que le Peer Gynt est coincé dans le désert marocain après que ses compagnons lui ont volé son bateau et l'ont abandonné alors qu'il dormait. La scène est décrite de cette façon suivante. Un bosquet de palmiers et d'acacias à l'aube. Peer Gynt est dans un arbre, se protégeant avec une branche cassée d'un groupe de singes. Donc, quand nous pensons... C'est rigolo, hein, quand nous pensons que c'est une histoire d'un fjord, alors que ça se passe en Afrique.
Exactement.
Mais enfin, la musique est géniale. Hein,
voilà, et très expressive très aussi expressive, de ces instants un peu oniriques.
Et c'est un tube, hein, il faut le reconnaître.
Voilà, c'est aussi une manière de... Pourquoi pas d'aborder les classiques avec ce type de compositeur très abordable et qui peuvent plaire au plus grand nombre.
Bien sûr. Voilà.
Edvard Grieg, donc. Thank you. Une manière d'aborder le matin avec Edvard Grieg, compositeur norvégien. Effectivement, la réflexion se faisait sentir en sachant que l'action se passe effectivement plus en Afrique qu'en Scandinavie. Et même en poussant un petit peu plus loin, on se laissait même comparer des similitudes entre effectivement d'autres musiques comme Laurence d'Arabie composée par Maurice Jarre, voilà, qui effectivement donne une certaine résonance aussi
à cette musique. Voilà.
Alors complètement différemment aussi une manière d'aborder toute cette beauté de ces scènes matinales ou plus nocturnes, c'est avec un titre original d'As Rheingold.
L'or du Rhin, c'est le premier opéra qu'a écrit Wagner de la tétralogie. C'est quatre opéras qui se suivent, qui reprennent de vieilles légendes nordiques, deviennent légendes allemandes. Et le premier, donc, l'or du Rhin. Et j'ai été très surpris, je sais pas à quelle occasion, de trouver dans les explications de Wagner, parce que Wagner était un type très, très méticuleux. Il expliquait la mise en scène qu'il voulait. Et où il disait l'emplacement, s'il fallait un rocher, s'il fallait des cailloux, s'il fallait une lumière. Bon. Donc, il a écrit donc l'organisation de ce premier opéra, l'Or du Rhin, et le premier mot qu'il dit en présentation, qui est en tête de l'opéra, c'est le mot l'aube. L'aube. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? On peut essayer de voir ce qu'il écrivait. Aube verdâtre. Vers le haut, plus lumineux. Vers le fond, plus sombre. Le haut est rempli de vagues d'eau qui s'écroulent sans arrêt de droite à gauche. Vers le fond, les flots se dissolvent en un brouillard humide, toujours plus fin, de sorte qu'à hauteur d'homme, en partant du bas, l'espace semble complètement vide d'eau, laquelle s'écoule, semblable à une masse mouvante de nuages au-dessus du fond nocturne. Voilà à peu près les... Voilà. Donc le premier mot de ces quatre grands opéras, qui sont quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est l'aube. Alors, écoutons l'Or du Rhin, le début, l'aube.
Voilà.
Un gros chromatisme wagnérien.
Voilà, comme vous le précisez.
Un vrai chromatisme.
On sent effectivement cette notion de massivité dans ces compositions de Wagner et puis toute la matière orchestrale qui l'entoure. Pour l'or du Rhin, tiré d'une mythologie germanique et nordique.
Voilà.
On enchaîne avec bien d'autres regards sur l'aube et l'aurore, thème qui nous est cher pour cette première partie d'émission de l'autre côté de la musique sur cette thématique. Donc, on poursuit avec un autre compositeur que nous avons pu aborder sous d'autres traits.
Voilà, nous avons parlé de Schumann et de sa maladie. Et il se trouve que les derniers morceaux qu'a écrit Schumann s'appelle Les Chants de l'Aube. Les Chants de l'Aube, on pourrait croire qu'il avait composé des lieder, on pourrait croire qu'il avait mis la voix. Eh bien non, c'est des 5 petites pièces pour piano, très très belles. Alors il y a une musique très très mélancolique avec une espèce de chant religieux, comme si Schumann était arrivé à un moment de sa vie où les espoirs disparaissaient. Peut-être la religion pouvait être un espoir, parce qu'il était grignoté par la folie et il s'en rendait compte. Et donc il a écrit ces morceaux, c'était juste avant qu'il se jette dans le Rhin. Alors écoutons un peu, avec un peu d'émotion, ces dernières compositions, Les Chants de l'Aube.
Voilà pour Les Chants de l'Aube
de Schumann. Voilà, c'est un peu émouvant.
Oui, tout à fait.
Puisqu'après, il n'écrira plus du tout. Il restera enfermé dans son asile. Bon, Brahms ira un peu le voir. Et puis, ça sera fin de vie.
Donc, épilogue pour ce compositeur, Robert Schumann. Nous poursuivons après les chants de l'aube sous d'autres
voilà,
sueurs complètement
décalées. Roméo et Juliette, bien sûr, inspiré de Shakespeare, hein, du Roméo et Juliette de Shakespeare. Roméo est sous le balcon, on imagine sa mandoline et il chante, bien sûr, l'apparition. Du soleil, non.
Voilà, c'est ça. Voilà. Chacun interprète son soleil.
Il joue sur les deux. Est-ce que le soleil, c'est Juliette? Voilà. Est-ce que c'est le soleil qui se lève? Bon, on laisse l'ambiguïté de la chose. Alors, on va entendre... Alors, je vous lis le texte quand même, parce que quand les chanteurs d'opéra, ils articulent pas toujours. L'amour, l'amour, oui, son ardeur a troublé tout mon être. Mais quelle soudaine clarté resplendit à cette fenêtre. C'est là que dans la nuit rayonne sa beauté. Ah, lève-toi, soleil, fais pâlir les étoiles qui dans l'azur s'envoilent, brillent au firmament. Ah, lève-toi, paré, astre pur et charmant. Elle rêve, elle dénoue une boucle de ses cheveux qui vient caresser sa joue. Amour, amour, porte-lui mes voeux. Elle parle, qu'elle est belle. Ah, je n'ai rien entendu, mais ses yeux parlent pour elle et mon cœur a répondu. Ah, c'est beau, hein.
La fameuse scène du balcon, c'est ça.
La fameuse scène du balcon de Roméo et Juliette de Gounod.
Donc, opéra en cinq actes, hein, du compositeur. Actes, et voilà. Là, nous étions dans l'acte 2.
Deux, hein, voilà, tout à fait.
Soleil, fais pâlir le
Quelle belle façon d'exprimer au soleil de se lever, de se montrer.
De se montrer, d'apparaître dans toute sa magnificence.
Quel est le soleil ? Chacun a son soleil.
Chacun son soleil.
En tout cas, une belle manière pour Charles Gounod d'interpréter cet opéra, d'après un livret de Jules Barbier. Michel Carré.
Voilà, tout à fait. C'était les grands écrivains de cette époque qui ont d'ailleurs aussi beaucoup écrit pour Offenbach, pour tout ce côté un peu opéra comique. Donc c'était les spécialistes. Hein. Voilà, c'est un moment d'une époque. Hein, bon, qui nous a laissé quand même. Gounod était un mélodiste très très fin, hein, qui savait très bien jouer sur ces choses-là.
Alors, autre mélodiste très fin, Michel, c'est aussi, quand on évoque le soleil, le lever de soleil, au coucher, on peut penser parfois aussi à la mer.
À la mer,
et
oui.
Un compositeur
un compositeur qui est toujours attaché à l'eau, hein, à ses vibrations, à ses vagues, à ses mouvements de l'eau. Et il a écrit un morceau de musique, La mer, bien sûr. Et il a présenté ses tableaux de la mer comme un peintre présente des tableaux. Et ces tableaux, il a appelé ça d'abord des esquisses symphoniques. Il y a une petite nuance. Hein. C'est trois esquisses symphoniques qu'il écrivit pour orchestre. Et il l'écrivit, ça a été donné la première fois en 1905, donc au début du XXe siècle. Et la première de ces esquisses s'intitule « De l'aube à midi sur la mer ». Alors c'est toute la subtilité de la musique de Debussy, toute sa fragilité, mais aussi ses grands élans. Et Debussy a quand même marqué profondément un changement de façon de voir les choses. Et il ira presque jusqu'à la musique, je dirais pas concrète, mais dans ses dernières compositions comme jeu, c'est assez complexe à écouter et c'est très d'avant-garde. Bon, écoutons pour le moment cette aube sur la mer.
Thank you.
Voilà, quelle dynamique pour effectivement des moments très intimistes et puis ensuite qui prennent une puissance assez démesurée, Michel.
Voilà, c'est le... C'est le génie de l'orchestration.
Voilà, hein, et d'abord.
Puis, c'est ces sensations que Debussy avait. Hein, c'est quand même le musicien de l'eau, c'est le musicien de la sensation de l'instant.
Voilà. Voilà.
C'est l'époque de l'impressionnisme hein, aussi. Bon, tout est lié. Il y a des communications entre les arts. Hein.
Beaucoup de sensibilité pour ce compositeur Debussy qui nous emmène maintenant... pour aussi un autre moment, tout en lumière, en aube ou en aurore, avec un compositeur qui semble plutôt méconnu, il est américain.
Voilà, c'est un compositeur américain qui, d'abord, a composé beaucoup de musique de films. Il faut reconnaître qu'aux États-Unis, l'industrie cinématographique était immense. Et c'est un morceau assez, quand même assez facile, qui s'appelle Grand Canyon. C'est de Groffet. Ferdinand Groffet, et ce morceau, il l'avait composé, et puis il l'avait composé pour 23 instruments. Et tout le monde lui a dit, mais écoute, c'est quand même te priver d'un grand orchestre symphonique, c'est quand même un peu triste, parce que ta musique est géniale, on pourrait lui donner la dimension du Grand Canyon, alors prends un orchestre symphonique. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'il a fait. En 1931, il a repris toute sa partition, et il a composé quelques parties. Alors il y a des parties beaucoup plus faciles comme le chariot qui traverse le désert du Colorado. Moi, ça c'est très connu. Mais la première partie est assez réussie et la première partie s'appelle Lever du soleil sur le Grand Canyon. Voilà, alors je vous propose d'écouter cette musique typiquement américaine, hein, musique qui pourrait être de film.
The Grand Canyon Suite.
The Grand Canyon Suite.
On sent de la puissance, de la démesure. On sent qu'il y a vraiment une petite notion américaine derrière tout ça.
Ah oui, tout à fait. Hein. C'est les grands espaces.
Les grands espaces, le grand canyon qui résonne.
Voilà, la dimension des USA. Hein, voilà.
Donc de Ferdinand Groffet, compositeur né en 1892 et mort en 1972, il n'y a pas si longtemps que ça,
pas si longtemps
qui a
que
donné
ça,
de ses lettres un peu de noblesse à la musique classique américaine, comme Aaron Copland aussi.
Oui, on la connaît assez peu, mais elle est très bonne, hein, la musique américaine. Bon, parce que il y avait l'argent, il y avait les Hollywood qui étaient un grand consommateur de musique pour les films.
Voilà, donc bon support.
Un support. Et puis les musiciens étaient nombreux. Alors, ils ont moins connu ce que a connu Vienne, disons, les dodécaphonistes, Schoenberg, Berg, Varèse, tous ces musiciens très modernes, Boulez même. Eux, ils sont restés toujours un peu dans la tonalité, etc.
Un peu cinématographique.
Une vision cinématographique des choses. Mais ils ont des compositeurs de qualité. Ouais. Hein. John Adams,
Williams
sont des grands compositeurs américains, hein, que nous jouons assez peu en France, il faut le reconnaître.
Tout à fait, effectivement.
Voilà.
En tout cas, ça donne aussi un certain écho dans cette thématique de l'aube à l'aurore, premier volet
que
vous avez envisagé, Michel. Le premier volet qui tend à dire qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à écouter.
Oui, voilà, il y a encore de quoi aider le soleil à se lever.
Et bien, on se retrouvera pour une prochaine phase de l'aube à l'aurore le mois prochain, et d'autres compositeurs. Merci beaucoup, Michel Jardella.
Au revoir.